Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Grâce Hamzati Massandi.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Kapi, la voix des sans voix pour les droits de l'homme demande la reconsidération de l'information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Dans une déclaration faite ce jeudi-ci dans la capitale, la VSV pense que le cardinal a le droit de jouir de sa liberté d'expression et que ses propos ne doivent pas être dramatisés. Tenez, il faut donc préserver la paix et la cohésion nationale, dit-elle. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire reste volatile dans le territoire de Masisi après l'occupation mardi de la cité minière de Rubaya par les rebelles du M23. Ces derniers avancent à présent vers d'autres villages, ce qui inquiète la population, alerte la société civile de Masisi. L'invité de ce journal est Germain Longalonga, infirmier orthopédiste du Centre pour handicapés du Maniema. Il nous parle du bien fondé de la détection précoce et orientation des pieds beaux pour une meilleure prise en charge. Madame, Messieurs, bonsoir. La voix des sans voix pour les droits de l'homme demande aux autorités congolaises et judiciaires de la RDC de reconsidérer l'information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de l'archidiocèse catholique de Kinshasa. Rappelons que le procureur général près la cour de cassation a enjoint au procureur général près la cour d'appel de Matete d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre du cardinal pour ses propos dits séditieux qualifiés de faits infractionnels. Dans une déclaration faite ce jeudi ici à Kinshasa, la VSV pense que le cardinal a le droit de jouir de sa liberté d'expression et que ses propos ne doivent pas être dramatisés. Il faut donc préserver la paix et la cohésion nationale dont la RDC a besoin, déclare le directeur exécutif de la VSV. Rostin Manketa est au micro de Jeff Ngoy.
Il est vrai que les propos du cardinal pouvaient blesser certaines personnes, mais je crois qu'en démocratie, on pouvait également les interpréter comme la jouissance par le cardinal de son droit à la liberté d'expression et d'opinion. Ainsi, tout compte fait, la voix des sans voix pour les droits de l'homme, dans sa mission de prévenir d'éventuelles violations des droits humains consécutives à la demande de cette ouverture d'information contre les cardinaux, et dans le seul but de privilégier de la recherche et de la cohésion nationale, demande aux autorités congolaises en général et judiciaires en particulier de revenir sur la décision qui a été prise pour privilégier la quiétude, la paix et que toutes les Congolaises et tous les Congolais focalisent leurs efforts sur le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
Comme dit dans les titres, au Nord Kivu, la situation est de plus en plus volatile dans le territoire des Masisi. C'est après l'occupation mardi de la cité minière de Rubaya par les rebelles du M23. Si une accalmie s'observe à Rubaya, les rebelles avancent vers d'autres villages. C'est entre autres en direction du chef-lieu du territoire, ce qui inquiète beaucoup la population, dit la société civile des Masisi. À Goma, une correspondance de Bernard Denyangi.
C'est après de violents combats qui les ont opposés toute la journée mardi à l'armée congolaise et ses alliés locaux que les rebelles du M23 ont conquis Rubaya. Du coup, ces rebelles, soutenus par l'armée rwandaise, étendent leur occupation au groupe Makibabi et Mutanda dans le Masisi. Pour le rapporteur de la société civile du territoire de Masisi, ces rebelles avancent depuis hier mercredi vers Katale direction Masisi Centre et vers Ngungu et Kinigi respectivement en direction des groupements Ufomando 1 et Katoi. Ce qui inquiète, dit Telesfor Mitondeke.
Les terroristes rwandais, ils ont pris là, de plusieurs la direction de l'agglomération du groupement Mufuni Kibabi, notamment à Lukofu, Kacheke, Tchougi, plusieurs autres entités. Un déplacement de population a été signalé. La situation demeure très préoccupante. L'ennemi ne cesse de s'approcher vers les chefs-liers du territoire de Masisi. Et il faudra que les dispositifs sécuritaires soient pris. Il faut juguler cette crise qui ne fait qu'enterrer vivant à de milliers de populations.
Après l'occupation de Rubaya, dont la majeure partie de la population n'a pas fui, nos sources redoutent une ouverture par les rebelles de sites miniers à une exploitation artisanale illicite. Les mines de Rubaya étant les plus riches en coltan, manganèse, cassitérite et tourmaline de la région. Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours, cette fois-ci dans le territoire de Beni, une double attaque des rebelles des ADF a été signalée ce mercredi 1er mai sur l'axe routier Eringeti-Kainama, à plus de 60 km au nord de la ville de Beni. Lors des affrontements avec les assaillants, les forces conjointes FARDC-UPDF ont libéré des civils kidnappés un peu plus tôt par les assaillants. Marc Emarofimbo nous appelle de Beni.
La première attaque était intervenue dans les avant-midi à Maïsafi, un village situé à une dizaine de kilomètres d'Eringeti sur la route de Kainama, dans le groupement Banane de Kainama. Ici, les rebelles des ADF ont incendié une moto et pris en otage un couple qui revenait du champ. Les éléments des forces conjointes FRDC et PDF sont intervenus et ont réussi à libérer les deux otages des mains de leurs ravisseurs après un échange de tirs. Vers 16h locales, ces rebelles ont pris pour cible la localité de Bounaké, à plus ou moins 7 km du lieu de la première attaque. Ils ont blessé par balle un cultivateur qui a succombé de ses blessures au centre de santé d'Eringeti. Les mêmes assaillants ont par ailleurs brûlé une voiture de transport à commun et 5 passagers à bord pris en otage. Ces derniers ont été libérés quelques heures plus tard par la coalition FRDC ou PDF. Les sources militaires dans la région précisent que ces rebelles ont pris la direction de la forêt de Tingwe et les forces conjointes se sont lassées à leurs trousses. La circulation a été suspendue toute la journée de ce mercredi sur cet axe routier qui relie actuellement les territoires de Beni à la province de l'Ituri voisin. Pour le moment, tous les véhicules empruntant l'axe Eringeti-Kainama, long de 80 km, sont bloqués dans les deux localités. Signalons que les otages de cette double attaque des EDF sont gardés dans les camps des forces conjointes FRDC et PDF dans la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Non loin de là, à Ituri, les activités économiques sont paralysées depuis ce jeudi sur toute l'étendue du territoire d'Aru, à 260 km au nord de Bounia. C'est en application de la ville morte des trois jours décrétée par la société civile de cette entité territoriale. Cette structure dénonce le regain des criminalités dont le meurtre d'un enfant la semaine dernière par des hommes armés, notamment à Aru et Ariwara, mais aussi la vente du véhicule anti-incendie du territoire par un service étatique. Radio Kapi Bounia, Isaac Raymond.
Les magasins, boutiques, stations-service et les marchés sont fermés depuis ce jeudi matin dans les grandes agglomérations dont Aru, Ariwara et Imbokolo. Le trafic est également très timide dans les rues et sur les différents axes routiers qui relient cette entité au territoire voisin de Maagi, Anituri et Ouacha et Farage dans la province d'Yotouélé. Dans un mémo adressé mardi à l'administrateur du territoire, la société civile fustige les regains des criminalités dans ces milieux. Les cas les plus récents sont les meurtres d'un enfant par balle et l'enlèvement des deux autres par des hommes armés non identifiés. Cette structure accuse également les services des infrastructures et travaux publics d'avoir vendu les véhicules de forage d'eau destinés à la population de ces territoires. Achidre Issa Traoré.
En ce direct, il y a les kidnappings qui raillent dans notre territoire comme une monnaie courante. Dans un mois, les hommes animés de mauvaise volonté les attivent à l'air au kidnapper des enfants. Dans le centre de négoce d'Ariwara, ils ont tué un enfant et l'autre est rentré vivante. Puis nous réclamons aussi les camions forage dotés par le gouvernement congolais et par les services de ITPR ici à Aru.
Les acteurs de la société civile locale, composés de la Fédération des entreprises du Congo, de la jeunesse et des notables du milieu, ont échangé ce jeudi avec l'administrateur du territoire en vue de trouver une issue à leurs revendications. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Direction la province du Maniema où la société civile Force Vive, antenne de Lubutu, dénonce pour la énième fois la présence des militaires dans les sites miniers de ces territoires. Dans une déclaration à Radio Kapi, son président Mutoro Mumbere Jean-Pierre fait savoir que la présence de ces hommes en uniforme nuit à la vie des paisibles citoyens qui s'y trouvent. Cette structure citoyenne appelle à l'intervention des autorités compétentes. On écoute Mutoro Mumbere Jean-Pierre, joint par Florence Kizalunga.
Nous, Société Civile Force Vive du Maniema, antenne de Lubutu, dénonce et condamne avec toute énergie la présence des militaires aux sites miniers qui se trouvent dans les territoires de Lubutu, Massaba, Ndigida, Kilomoto, Tcholo, Magiatane, Etogo et consorts. Cette structure sociale se pose la question de savoir est-ce que ces sites miniers sont à confondre avec Bunagana, Kichanga, Rutshuru, Masisi ou Lubero? Elle demande aux autorités politico-administratives en général, tant locales au niveau de Lubutu, provincial que national, et au ministre de la Défense de trouver une solution durable dans le sens que certains sites commence d'être ravis par les militaires et les paisibles citoyens, au lieu de se vaguer librement à leurs préoccupations, sont victimes de plusieurs tracasseries, fouets et tortures de toute énergie. Alors nous dénonçons et nous condamnons avec toute énergie et demandons surtout à nos politiques administratives de trouver une solution afin que les pires n'arrivent.
Contacté, l'administrateur du territoire de Lubutu confirme la présence des militaires mais précise qu'ils sont là pour la sécurité des sites miniers des Chinois. Autre aspect d'actualité, au Congo central, la régie de distribution d'eau a remis en service des installations de production d'eau dans les territoires de Luozi. L'arrêt de distribution d'eau qui date depuis plus de 5 mois est consécutif à une panne au niveau de l'usine de captage causée par la montée des eaux du fleuve Congo. Le directeur provincial de la régie des eaux, Théodore Kabeangandou, demande à la population de payer leurs factures de consommation d'eau pour permettre à cette société d'acheter le gasoil qui fait fonctionner les groupes motopompes du captage d'eau de Louosi. Le point avec Nana Plurich Mambou.
C'est depuis mercredi 1er mai que le centre de la régie des eaux Louosi, en arrêt depuis le 19 décembre dernier, est remis en service. Ceci réjouit les habitants de la cité de Louosi qui affirment avoir vécu un calvaire pendant l'arrêt de la production d'eau. Joseph Loussan-Lenvo est le président des 10 secteurs de Louosi.
Pendant tout ce temps-là, fallait s'aligner devant quelques puits où on payait un bidon de 25 litres à 300 francs. On a eu beaucoup de maladies hydriques, des diarrhées suite à cette eau impure qu'on a consommée.
La régie des eaux dit avoir réuni tous les moyens pour résoudre ces problèmes. Elle s'excuse auprès de ses abonnés de Louosi et les appelle au paiement de leurs factures de consommation. Théodore Kabeangandou, directeur provincial de la régie des eaux Congo Central.
Profitons de cet instant pour nous excuser auprès de nos abonnés qui ont tant souffert de cette inactivité qui était due à des intempéries. Dès demain déjà, comme l'eau coule au robinet, que ceux qui ont nos dettes passent les régler pour nous permettre d'assurer la continuité de ces travaux.
Signalons que l'usine de captage et de production d'eau de Louosi est installée au bord du fleuve Congo. Elle a été submergée pendant la crue d'eau du fleuve. Lorsque les eaux se sont retirées, la passerelle d'accès à l'usine et plusieurs machines ont été endommagées. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis, l'Union pour la défense des droits des consommateurs, IDECOM, émet des craintes sur la vie chère à la suite de la hausse du prix du litre du carburant à la pompe en RDC. Dans une lettre écrite au ministre de l'économie nationale avec accusé des réceptions ce jeudi 2 mai, l'IDECOM juge cette hausse du prix anormale pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que cela vient énerver le faible pouvoir d'achat des populations en les réduisant davantage. Cette hausse du prix du carburant entraîne également des effets néfastes sur le prix du transport en commun. Les conducteurs des véhicules imposent unilatéralement le prix des courses sans tenir compte des distances et c'est la jungle, indique l'Union des consommateurs. Son coordonnateur recommande au ministre de l'économie de prendre des mesures d'encadrement de tous les prix en réunissant et les représentants des consommateurs et les opérateurs du secteur. Maître Chief Chipamba est au micro de Jeff Ngoy.
Nous sommes dérangés par la façon de faire. Là où vous devez acheter 10 litres, vous en achetez 7 parce qu'on a revu unilatéralement le prix du carburant à la pompe. Le revenu est resté constant, mais les charges ont augmenté avec l'augmentation du prix du carburant. Que cette façon de faire est contraire au deuxième point du discours d'investiture du chef de l'État qui encourageait la prolongation du pouvoir d'achat. Or, l'arrêté du ministre de l'Économie a réduit sensiblement le pouvoir d'achat. Cependant, il y a des craintes que nous éprouvons davantage. Le prix de transport risque de s'énerver. Déjà, les conducteurs et propriétaires de véhicules ont eu à instaurer le demi-terrain. Personne ne respectait les itinéraires. Pour une course prévue par l'État, pour 500 francs, il arrivait des fois qu'on paye le triple. Ça sera vraiment compliqué. Donc, nous demandons à ce que les autorités se réunissent rapidement pour essayer de contenir, sinon de gérer, toute velléité de nature à revoir à la hausse le prix des biens de première nécessité.
Parlons santé. En Mbujima au Kassai Oriental, plusieurs personnes souffrent actuellement de la conjonctivite. Cette inflammation de la conjonctivite ou membrane qui couvre le blanc de l'œil et l'intérieur des paupières se manifeste par l'écoulement de l'œil, la vision brouillée, les démangeaisons au niveau des paupières et la rougeur du blanc de l'œil. Le médecin épidémiologiste provincial parle d'une épidémie. Il annonce ainsi quelques mesures hygiéniques à observer par les personnes atteintes de conjonctivite. Docteur Jean-Pierre Soumba, médecin épidémiologiste, est joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Au nombre de cas de conjonctivite, il y a lieu de confirmer qu'il y a une épidémie au niveau de la province par rapport à la conjonctivite. Pour vous prévenir, il faut savoir d'abord l'origine de cette maladie. C'est une maladie qui peut être une allergie, une réaction inhabituelle de quelqu'un à quelques germes donnés, mais ça peut être aussi causé par des bactéries comme par quelques virus. Donc c'est une maladie extrêmement contagieuse et qui se transmet par des contacts avec les sécrétions de l'œil de la personne qui est infectée. C'est pourquoi pour arriver à éviter que la maladie ne puisse se transmettre facilement, il y a lieu de prendre les mesures hygiéniques. D'abord, il faut se laver soigneusement les mains. Ça, c'est une mesure primaire qu'il faut appliquer. Deux fois, il faut essuyer l'écoulement de l'œil, mais d'une manière, c'est-à-dire vous partez de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur en utilisant une partie propre d'un mouchoir. Il faut éviter de se saluer toujours à la main et surtout de ne pas partager le serviette. Mais il faut noter aussi que le malade doit rester à la maison pour éviter de propager cette maladie-là. Tout ce que nous demandons, c'est de se présenter au service de santé pour qu'on puisse vous orienter.
Actualité internationale.
La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne des nombreux massacres des civils au Burkina Faso et la privation des libertés d'acteurs de la société civile, des syndicats et d'hommes politiques. Les responsables de ces coalitions demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes.
L'invité.
C'est Germain Longalonga, infirmier orthopédiste du Centre pour handicapés du Maniema. Dans cette interview accordée à Radio Kapi, il nous parle du bien fondé de la détection précoce et orientation des pieds bots pour une meilleure prise en charge. Germain Longalonga répond aux questions de Florence Kizalonga de Pikindo.
Monsieur Germain Longalonga, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Qu'est-ce qui motive Il Africa en collaboration avec le Centre pour handicapés du Maniema d'organiser cette série de sensibilisations au personnel soignant sur la détection précoce du pied bot et l'orientation vers la clinique?
Il Africa à travers OPOC nous a aidé à sensibiliser le personnel soignant afin de détecter précocement, donc avant temps, les enfants qui naissent avec le pied bot varicocèque congénital pour permettre à ces agents d'orienter les mamans ou les parents vers la clinique pour une meilleure prise en charge.
En détectant bien avant les pieds bots, est-ce que ça a des avantages?
Oui, ça a des avantages. Les avantages, il y en a que les pieds bots détectés précocement, donc dès la naissance, ces pieds bots est corrigé facilement plutôt que un pied bot négligé. Donc l'avantage est que on commence le traitement tôt. Donc, dès la naissance, on commence le traitement et ça va nous donner un bon résultat parce que le pied est encore flexible à manipuler. Quand on détecte précocement le pied bot, ça va nous aider à bien corriger. Et une fois corrigé, l'enfant sera guéri et il ne va plus développer un handicap.
En quoi est-ce que ces femmes accoucheuses ou les accoucheurs vous seront utiles dans cette opération?
Les accoucheuses ou les accoucheurs ainsi que les infirmiers seront utiles lorsqu'ils détectent. Donc, après avoir dirigé un accouchement, l'enfant là, il faut qu'il examine cet enfant minutieusement, donc de la tête aux pieds, afin de détecter précocement s'il y a un pied bot. Dès que l'accoucheur ou l'accoucheuse voit qu'il y a un pied bot, directement, il réfère, donc il transfère cet enfant dans la clinique pour une meilleure prise en charge.
Et quand on transfère l'enfant pour une prise en charge, ça sera une prise en charge gratuite ou bien on va payer quelque chose?
La prise en charge est gratuite. Il n'y a pas un frais à payer. Donc, dès qu'on reçoit les malades, nous l'enregistrons. OPOC a doté tout le matériel possible pour le traitement de cet enfant.
Pourquoi vous limitez seulement au personnel soignant, les accoucheuses et les accoucheurs et les parents? Les parents n'ont pas de part de responsabilité dans cette opération?
Les parents, effectivement, ils auront la part des choses lorsque les accoucheuses ou l'accoucheur lui montre le bienfait du traitement tôt. Donc, les bienfaits du traitement précocement. Donc, si une fois l'accoucheur lui montre qu'il ne faut pas tarder avec l'enfant, il faut aller directement vers la clinique, dans ces cas-là, le parent aura le courage d'aller parce qu'il y a beaucoup de parents qui ignorent, qui n'ont pas la connaissance qu'il y a un centre spécialisé pour le traitement de ce type de malformation. Alors, les parents directement, ils viendront parce que le traitement est gratuit. Là, il n'y aura pas de problème.
Mais Monsieur Germain, comment on reconnaît, comment détecter les pieds bots?
Pour détecter les pieds bots, nous avions donné tous les signes des pieds bots aux accoucheurs et aux accoucheuses. Donc, il y a 4 signes. Il y a l'incurvation des pieds, il y a le raideur, donc le cunisme, il y a aussi le cavus, il y a un prononcé, il y a aussi la production de la tête d'astragale. Ces 4 signes, nous avions montré aux accoucheurs et aux accoucheuses afin qu'ils puissent détecter lorsqu'ils examinent l'enfant et qu'ils trouvent ces 4 signes-là de pied bot varicocèque. Directement, on conclut que ça, c'est un pied bot varicocèque congénital.
Mais vous êtes trop technique pour nous aider à mieux comprendre ces signes dans des termes très simples, parce que c'est pas toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital, il y a celles qui accouchent même à la maison. Comment cette mère peut, après avoir accouché, peut constater que mon bébé a un problème de pied bot?
pour que la maman constate que mon enfant a un pied beau, il va voir les pieds de son enfant et courbé. Le pied n'est pas allongé normalement. Donc, dans un terme vulgaire, le pied est courbé et ce pied-là n'est pas allongé comme les d'autres pieds. Et ce pied-là a un raideur. Le raideur, donc, je peux dire, c'est comme si la cheville est bloquée. L'articulation du pied est bloquée. Il n'y a pas un mouvement normal de l'articulation du pied. Dès que la maman voit cela, vraiment, qu'elle ait en tête que le pied de mon enfant n'est pas bon et le pied est mal formé.
Monsieur Germain Longalonga, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kiza.
Notre invité s'entretenait bien entendu avec Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu-Maniema. Fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, par ici s'achève ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda sous la supervision éditoriale de Pele Kipela Mondo. La mise en onde était assurée par Billy Landry Bitu. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci.